Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 mars. Dans le prolongement de notre méditation d'hier, nos textes nous feront réfléchir sur l'endroit où nous sommes appelés à demeurer. Nous prions avec le psaume 88. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il redescendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Et il leur était soumis. Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 4. Restez, deuxième partie. Un ancien anonyme a dit « Si une épreuve t'arrive là où tu vis, ne quitte pas cet endroit quand vient l'épreuve. Où que tu ailles, tu t'apercevrais que ce que tu fuis t'y attend déjà. Alors, reste jusqu'à ce que l'épreuve soit passée, si bien que si tu finis vraiment par partir, tu ne causeras de tort à personne et tu ne seras pas source de détresse pour ceux qui vivent au même endroit. » Voilà une considération tout à fait typique, celle qui consiste à dire qu'on ne devrait pas partir à la légère, à cause du message que cela envoie à tous ceux qui sont dans la même situation. Inutile d'essayer. C'est impossible ici, avec ces gens-là. Cette démangeaison inévitable, cette douleur causée par le fait de devoir vivre avec soi-même, est montrée de manière encore plus frappante par une autre histoire anonyme. Il y avait un frère dans un monastère dont le tempérament était plutôt bouillonnant. Il se mettait facilement en colère. Alors, il se dit à lui-même « Je vais partir et vivre tout seul. Si je n'ai besoin de parler à personne, je vivrai en paix et mes passions seront apaisées. » Il s'en alla et s'installa dans une grotte. Un jour, alors qu'il avait rempli sa cruche d'eau, il la posa par terre et elle se renversa. Il la ramassa et la remplit à nouveau, et à nouveau, elle se renversa. Il la remplit une troisième fois et elle se renversa pour la troisième fois. Il était furieux. Il attrapa la cruche et la brisa contre le sol. Puis il retrouva ses esprits et il réalisa qu'il avait été piégé par le diable. Il dit « Puisque j'ai été vaincu même dans la solitude, je ferais mieux de revenir au monastère. Le conflit est partout, mais la patience et l'aide de Dieu sont partout aussi. » Alors il se leva et il revint là d'où il était parti. Si nous trouvons les relations difficiles, alors qu'allons-nous faire de notre relation à nous-mêmes, à notre propre corps, à l'entêtement des choses ordinaires? Le péché et le conflit ne concernent pas seulement notre relation aux autres. On trouve le conflit partout, et celui qui vient de ma confrontation à moi-même n'est pas le moindre. C'est pourquoi rester dans ma cellule, c'est de la manière la plus fondamentale rester en contact avec mon identité réelle en tant que créature limitée, quelqu'un qui ne contrôle pas tout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quelqu'un qui est encore un être inachevé entre les mains du Créateur. Le frère de notre histoire a peut-être atteint un niveau impressionnant d'accomplissement spirituel, mais il n'en reste pas moins une personne inachevée. Ce qu'il doit encore apprendre, c'est qu'il lui faudra du temps pour arriver à sa pleine maturité spirituelle, le temps nécessaire pour que toute sa vie personnelle soit envahie par Dieu et pour que les pressions qui s'exercent sur l'âme, les passions, soient apaisées. Il y a ainsi un côté implacablement prosaïque dans le chemin vers la sainteté. Peu importe les extases et les exploits d'abnégation, peu importe l'héroïsme, la tâche essentielle, c'est celle dont il va falloir s'occuper maintenant. Un frère demanda à l'un des anciens : « Que faire ? Je suis obsédé par cette pensée lancinante. Tu n'arrives ni à jeûner ni à travailler, alors va au moins visiter les malades, parce que c'est un moyen de témoigner de l'amour. » L'ancien reconnut que le diable avait semé ses graines chez le frère. Et il lui dit « Va, mange, bois, dors, mais surtout ne quitte pas ta cellule. » Il savait bien que c'est la persévérance dans la cellule qui fait du moine ce qu'il est. Durant 3 jours, le frère obéit, puis il fut submergé par l'acédie, la lassitude et l'apathie spirituelle. Mais il trouva de petites feuilles de palmier et se mit à les préparer. Le lendemain, il commença à les tresser. Quand il eut faim, il se dit « Voici encore quelques feuilles, je vais les préparer et ensuite je mangerai. » Il finit de les préparer et il se dit « Peut-être que je vais lire un peu avant de manger. » Et quand il eut lu un petit moment, il se dit « Bon, je vais chanter quelques psaumes et ensuite je pourrai manger avec bonne conscience. » Et ainsi, avec l'aide de Dieu, il continua petit à petit jusqu'à ce qu'il soit devenu ce qu'il était appelé à devenir. On pourrait multiplier les exemples de ce genre de récit presque douloureusement banal de ce qu'il faut faire pour devenir saint. Nous avons envie que quelque chose de tangible, quelque chose d'important, marque le changement qui s'est opéré dans nos vies. Et voilà qu'on nous demande simplement de faire ce que nous avons à faire, aussi banal que ce soit. On nous avertit même, dans cette petite anecdote, de nous garder de chercher avec empressement quelqu'un à aimer, ce qui reviendrait à utiliser quelqu'un d'autre pour résoudre le problème de notre propre ennui et de notre peur de nous-mêmes. Il vaut la peine de préciser que pratiquement tous les anciens du désert disent sans embâge que lorsqu'un besoin humain spécifique se présente à nous, nous devons y répondre. Ce que cette histoire essaie de dire, ce n'est pas une doctrine abstraite de la supériorité de la solitude sur la charité active, loin de là. C'est simplement que cette recherche anxieuse d'un objet à aimer est révélatrice. Ce qui en est au centre, c'est nous, et non pas un appel concret à aimer notre prochain. Nous prions. Seigneur, tu nous jettes à terre, tu nous burines en prière. Lève en nous l'espoir de voir fleurir ta promesse de paix. Tu viens tracer ta présence dans notre misère. Sur le chemin grave de l'ermite, nos mains sont tendues pour accueillir ton secret. Dans ce combat pour la naissance de ton visage reflété sur le nôtre, dans ce pas à pas quotidien, Seigneur, que nos mains soient ouvertes pour accueillir ta patience, ta grâce et les dons de ton esprit. Amen.